Roi Noranda, finalement, c'est comme une bonne soupe.
Continuez, vous me donnez faim.
Pour débuter, un bouillon bien gras, où l'on ajoute tout ce qui dépérit au frigo. Des chômeurs de partout, des paysans, des exilés. À mesure que la recette prend forme, on y ajoute des épices cultivées un peu partout dans le monde. Et voilà, un mélange parfait où tous les ingrédients se rehaussent et qui fait chaud au cœur.
Il y a eu une première vague qui était celle qu'on appelle les fraux. Les fraux, eux autres, étaient arrivés avec les compagnies minières.
Sébastien Tessier.
Au début des années 1900, un peu pendant la Première Guerre mondiale, ils travaillaient déjà dans les mines en Ontario et ont suivi les compagnies pour devenir les travailleurs de fond à Rouyn.
Il avait suivi la route des sans-travail. Sudbury, Kirkland Lake, Toronto, Oshawa, North Bay et finalement Rouyn. La route de la liberté. On s'y engageait toutes les nationalités confondues. Finlandais, Croates, Biélorusses et que sais-je encore. Immigrants, chômeurs, paumés de toutes sortes, chassés des villes ennemies du Sud, avec pour seul espoir et passeport, des mains qui disaient l'habitude des charges lourdes et du labeur humblement consenti.
On avait plusieurs ethnies qui venaient principalement d'Europe de l'Est, qui avaient leur propre salle de rassemblement.
Jonathan Barrette.
En général, ce qu'on y retrouvait comme activité, bon, il y avait des fêtes traditionnelles, une chorale, des danses. Il y avait des cours de langue pour les enfants. On avait notamment les Ukrainiens. Il y avait des réunions assez politiques à ce moment-là parce que plusieurs des membres avaient des accointances avec le Parti communiste. Il y a eu la même chose aussi avec les Finlandais.
Dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une deuxième vague d'immigration. Cette fois-ci, on les appelle les DP. C'est des gens qui se sont installés, en fait, dans la région minière de l'Abitibi. Les mines avaient repris beaucoup après la guerre, donc on avait besoin de main-d'œuvre. À cette époque-là, souvent on les appelait les Russes blancs pour les comparer aux Russes rouges qui étaient communistes de l'époque.
Quand la guerre a déclaré en 1939, mon père y avait quoi, 21 ans? Il était conscrit pour aller dans l'armée.
Marie Kouralouk.
La guerre en Pologne n'a pas duré longtemps, même pas un mois. Il était fait prisonnier de guerre. Ils l'ont amené travailler dans les mines. Une fois que la guerre était terminée, il était libéré.
Les Slaves, les DP qu'ils appelaient les Dispersed Persons.
Bert Bonaparte.
Ils ne pouvaient plus retourner dans leur pays là, parce que Staline était de la misère. Ça fait qu'ils étaient dans des camps, ce ne sont pas des camps de prisonniers. Là.
Des camps transitoires pour des personnes déplacées. Pour que les gens prennent une décision. Voulez-vous retourner dans votre pays? L'Abitibi, surtout, ouvrait, puis il voulait avoir des mineurs. Fait qu'il a donné son nom, c'est comme ça qu'il est retenti ici.
C'était un quartier de maisons couvertes de papier brique.
Louise Desjardins.
Pour ce qui est des revenus et tout ça, on était tous pas mal dans le même pétrin, c'est-à-dire que dans des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et nos voisins, c'était des mineurs, c'était des Polonais, des Allemands.
C'est des petites villes, tout le monde se connaît. Moi, je pense que la grosse différence, c'est là, tu sais.
Richard Desjardins.
Ils ne sont pas dans les plus grosses villes que ça. À Montréal, les Haïtiens sont dans le quartier, les Italiens sont dans le quartier, les riches sont dans le quartier, la gang de pauvres sont dans l'Est. Tu sais, c'est pas comme les villes comme Rimouski où c'est 100% français, là, tu sais. Toutes les langues qui étaient là, puis tout le monde se connaissait.
Les Italiens, dont le club existe encore aujourd'hui, c'est une population qui a été plus fidèle à Rouyn-Noranda, qui est restée en plus grand nombre, probablement du fait de la langue, qui était plus près du français, comparativement, par exemple, aux Polonais, aux Finlandais, aux Croates.
Les bonhommes commissaires sur le coin de la rue chez nous, le samedi matin, quand ça arrivait, là, à un moment donné, là, ils ramassaient toute la gang de la rue, là. On était en bobette, là, puis là, on piétinait dans sa cuve tous les raisins pour faire son vin. Tu rentrais dans une autre maison, dans le fond du salon, il y avait un petit hôtel avec une vierge noire polonaise, puis de la musique. J'avais comme un bon bassin de toutes sortes d'influences. C'est direct sur ma rue, puis je m'en suis servi, tu sais.
Ces deux pensionnaires, des anciens prospecteurs, débarqués depuis la fin des années 20, ont connu le boom de la Noranda Mine située juste de l'autre côté de la rue, au-delà du chemin de fer par lequel elle était arrivée. Elle, la Chinoise,
dans un train tiré par une locomotive à vapeur, il y a déjà quelques 40 années. Ils sont les témoins du temps florissant, où on servait dans ce restaurant plus de 100 repas par jour au froid et à quelques Canadiens français parlant anglais.
J'avais rencontré un Polonais sur la rue, mais lui, c'était mon voisin dans le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, « How come all those years you never learned to speak French? » Il dit, « I never had to. » Mais personne ne s'en tenait à rigueur de ça. L'Abitibi, dans cette époque-là, c'était comme, pour eux autres, c'était une annexion à l'Ontario.
On était différents. On pataugeait dans les deux langues. Dans les années 70, tu as vu des gens anglophones partir en panique avec l'arrivée du Parti québécois. Ma mère a toujours dit, rien pire qui peut arriver. Elle a dit, j'ai vécu la guerre, il n'y a rien qui va arriver. On est au Québec, il n'y aura pas de guerre, là. Arrêtons d'avoir peur, là. Mon père, il a décidé de ne pas partir. Il voulait rester, il dit, c'est chez moi, ici.
Je suis arrivée dans la vague des immigrants qui ont travaillé dans l'enseignement.
Marie-Claude Leclerc.
Des Européens qui arrivaient de France, et d'Espagne, de Belgique, d'Italie, d'Égypte, de tous les pays où c'est plus ou moins francophone. Je suis arrivée au Québec avec mon mari, qui faisait à l'époque la coopération militaire. Il me disait, bon, ben, on vient pour 2 ans, c'était des contrats de 2 ans, et je retourne. Les cégeps ouvraient. Donc, c'était une pleine période d'emploi, de recherche d'enseignants.
Alors, j'ai quitté l'Espagne dans les années 60.
José Mediavilla.
Quand j'étais à l'université, le Canada faisait beaucoup de publicité pour attirer les immigrants. Il y avait des posters dans les corridors, venez au Canada, le Canada s'occupe de vous. Et on est arrivé tout de suite à Rouyn-Noranda parce que c'est le seul endroit où on a trouvé un emploi. On voulait être prof au cégep.
Je suis arrivée presque, je vais dire, sur la lune. Mais je suis arrivée avec ma structure mentale de ville européenne. Je ne comprenais, je ne voyais rien. Je ne voyais pas la beauté non plus, parce que pour moi, c'est tellement différent. À cette époque-là, tout me manquait. La nourriture, le pain, la température. Je regardais la télévision. Bon, il n'y avait pas 36 chaînes. Et c'était toujours le hockey. Et mon Dieu, heureusement, il y avait les beaux dimanches quand même. Hein. Mais je ne vous dis pas, quand j'ai commencé à enseigner, la difficulté que j'ai eue à comprendre mes étudiants.
Comme Rouen et l'Abitibi, minière a été une terre d'immigration depuis les débuts. Alors, le fait que nous soyons arrivés comme immigrants, ça ne choquait plus personne. 40 et quelques années plus tard, mais on est encore ici.
Il y avait, après, si on me dit 40-45% des professeurs les premières années du Haut-Cégep qui étaient européens. Eux autres, ils ont apporté une culture qui est encore omniprésente. Ils ont fait écouter à leurs étudiants des artistes comme Léo Ferré, Georges Brassens.
Jacques Matt.
Ça a marqué énormément l'Abitibi-Témiscamingue, les Européens. Ici, on ne s'en doute pas comment ce mélange-là, cette culture-là, a fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui l'état des lieux que l'on connaît à l'heure actuelle. Ça vient de quelque part que cette région-là soit différente au niveau culturel, parce qu'elle l'est.
On assiste actuellement à une vague d'immigration dans le cadre donc, de recherche de l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce qui donne, bien sûr, à Rouyn-Noranda, un portrait différent, parce que là, les gens viennent d'Afrique noire, de l'Afrique du Nord. Et là, ça va aussi changer le portrait visuel, ce qui peut surprendre. Donc maintenant, c'est une autre ouverture qu'on va demander à la population, à nous-mêmes.
Plus que Montréal encore, qui fut surtout sous l'influence canadienne-anglaise, l'Abitibi cosmopolite est la région québécoise la plus intégrée au continent. Melting pot à sa façon et racine courte, matérialiste et audacieuse. Métissée, oui, au sens le plus moderne. Je suis non seulement convaincue qu'elle est belle, mais que sa folle impureté est prophétique.
Même encore aujourd'hui, à Rouyn, tu sais, moi, quand j'entends parler des accommodements, là, je dis, hey, calmez-vous, là, tu sais. On était là-dedans toute notre vie, puis on consacre pas ailleurs à quelqu'un parce qu'il est anglais ou quoi. C'est un modèle, je pense, Rouyn, pour ça, pour l'intégration des gens.
Lachesky, Commisso, Roubaix, Montemuro, Coligny, Vygotsky, Muraski, Miseiko, Wally, Nieminen, Reznak, Slobodien, Stradzak, Bonaparte, Kruger, Finkelman, Ansara, Poli, Mikolaj, Verschuk, Mikolaj.